Bienvenue à votre émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui vous parle. Mon invité ce soir, c'est Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Nous entrons dans une période tout à fait particulière. En fait, c'est la période du carême qui nous prépare et qui nous conduit au dimanche de Pâques. Et ce soir, la majorité de notre émission va porter sur la première lecture extraite du livre de la Genèse. C'est au chapitre 9.
Oui, Claude. J'aimerais signaler que le récit que vous allez nous lire, c'est le premier récit d'une alliance dans la Bible. Nous savons à quel point, au plan de la foi chrétienne, le thème de l'alliance est fondamental, puisqu'en Jésus, c'est la nouvelle alliance. Nous aurons, avec ce récit, donc celui de la première alliance dans la Bible. Spontanément, dans l'Ancien Testament, on associe le thème de l'alliance à la relation entre Dieu et son peuple. Alors qu'ici, on verra une visée beaucoup plus large.
Ce que vous dites, c'est que ce serait l'alliance entre Dieu et l'humanité.
Oui, voilà. C'est la toute première alliance dans la Bible et ça concerne toute l'humanité.
C'est donc au chapitre 9 du livre de la Genèse. Après le déluge, Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec tous vos descendants, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, les animaux domestiques, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous, tout ce qui est sorti de l'arche, tous les animaux de la terre. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être vivant ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour toutes les générations à venir. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit un signe d'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel paraîtra dans les nuages, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et avec tous les êtres vivants, et les eaux ne produiront plus le déluge qui détruit tout être vivant. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre moi et tout être vivant, toute chair qui est sur la terre. » Alors, vous disiez donc d'entrée de jeu que ce récit du déluge nous place en présence de cette première alliance selon la Bible.
Oui, le mot « alliance » apparaît pour la première fois dans le contexte du déluge. On est après le déluge. Le déluge, ça commence au chapitre 6 du livre de la Genèse. Et ici, au chapitre 9, nous sommes tout de suite après. Et la conclusion du déluge commence par une bénédiction que Dieu donne à Noé et à ses fils, et il leur dit, et ici nos auditeurs vont reconnaître la formule, je pense bien, il leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Et on voit que c'est mot pour mot ce que l'on trouve déjà dans le poème de la création, hein, ce que Dieu dit aux humains à la fin de la création. soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, c'est un peu comme si après le déluge, on relance le processus de la vie et on le relance avec les mêmes mots, dans les mêmes termes que le projet de création initial. Alors, l'Alliance vient comme conclure, je dirais, le projet de création de Dieu après ce qui fut presque une décréation, puisque le déluge a failli tout détruire. On parle de récits anciens, hein, Claude. Là, je ne voudrais pas donner l'impression aux gens qu'on considère que ces événements-là se sont produits tels quels. La plupart des gens ont déjà entendu toutes les nombreuses mises au point qui sont faites sur ce genre de récits. Bon, on vient en plus de souligner, il y a à peine 2 semaines, l'anniversaire de la naissance de Darwin. On a rappelé la théorie de l'évolution. On doit se rappeler que les récits bibliques ne racontent pas au sens propre, hein, les débuts du monde. Ils proposent une théologie, une certaine vision de Dieu. C'est une proposition de signification au sens philosophique du terme, le sens de l'univers. Et en cela, la Bible n'est pas originale. Toutes les littératures antiques comportent de ce genre de récits qui sont là pour faire la philosophie, si on veut, de l'époque.
Si je vous comprends bien, en somme, c'est une réflexion de ces sages, si vous voulez, ou de ces religieux, de ces gens qui réfléchissent, constatant la situation humaine de leur temps, réfléchissent. On peut peut-être ajouter à l'aide de l'Esprit de Dieu qui les habite.
Oui, mais de la même manière que ça se fait dans les autres aussi. Civilisations.
Ouais, d'autres civilisations qui ont...
On a besoin de faire du sens. Hein? La question existentielle...
C'est d'où venons-nous et où
allons-nous?
Voilà,
la question remonte à la nuit des temps, ou disons depuis que l'homme est homo sapiens sapiens, mm-hmm. pour se situer dans la perspective de l'évolution. Là où la Bible est originale, c'est quelle philosophie elle propose. Alors, ce que je vous propose, Claude, c'est que dans un premier temps, on regarde comment elle est présentée, cette alliance, dans ce récit. Et ensuite, on reviendra sur le déluge lui-même, parce que pour comprendre toute la portée de cette alliance, on a besoin aussi de voir le contexte et le genre littéraire. Mais pour l'instant, donc, si on regarde qu'est-ce qui caractérise l'alliance dans ce que vous venez de nous lire, on pourrait dire 2 traits surtout. Elle est cette alliance unilatérale. Et elle est universelle. On pourrait commencer d'abord par l'aspect
la dimension universelle.
Oui. Ouais.
D'ailleurs, vous avez remarqué la façon que j'ai lu. J'ai appuyé sur cette dimension que ce n'était pas une alliance, un contrat, entre guillemets, avec un peuple, mais vraiment avec l'ensemble de l'humanité.
Oui, oui. Avec Noé et ses descendants. Hein. C'est bien ce que Dieu précise. Mm-hmm. Donc, c'est clair que pour l'auteur de ce récit, la désignation des descendants de Noé, ça représente toute l'humanité. On le voit tout de suite au chapitre suivant de la Genèse, le chapitre 10, où l'auteur place immédiatement la liste des peuples connus à l'époque où lui-même écrit. Et donc, ça reflète le déploiement, on pourrait dire, de la fécondité humaine. Les peuples représentent, je dirais, l'humanité à la fois dans son unité, puisqu'ils sont présentés comme ayant un ancêtre unique, qui est la famille de Noé, et en même temps l'humanité dans sa diversité, puisque c'est une liste de peuples, hein, donc des cultures différentes. Ce n'est pas une liste d'individus seulement, mais vraiment des peuples. Il faudrait que l'on réalise l'originalité théologique de ce texte pour l'époque où il a été écrit. Dans la tradition biblique, l'Alliance... Ça concerne presque toujours la relation particulière entre Dieu et son peuple. Et notre auteur, il est nourri de cette tradition-là, qu'elle soit en partie orale ou en partie déjà écrite. Ce qu'il connaît du thème de l'Alliance, c'est la relation privilégiée avec le peuple de Dieu.
Alors qu'ici, c'est la relation de Dieu avec l'ensemble de l'humanité.
Ouais,
alors même s'il est pétri de cette conviction...
Il l'élargit,
voilà.
Infiniment, on pourrait dire, en utilisant le mot alliance pour, qualifier la relation de Dieu avec toute l'humanité. Et c'est d'autant plus impressionnant, ce déplacement théologique majeur, qu'il se produit au tournant de l'exil. Bon, pour situer...
rappeler le don.
Donc, on est entre les années 587 et 538. La Jérusalem, le royaume du Sud, a été conquis par Babylone. Et une grande partie de l'élite politico-religieuse a été amenée en exil à Babylone. C'est la période la plus difficile de l'histoire du peuple de Dieu, période de l'exil. C'est la perte des institutions.
C'est ça, la perte du territoire. Le temple est détruit, la monarchie est cassée, brisée. Ouais. La majorité de l'élite est traînée à travers le désert vers Babylone.
Ouais. Et donc, c'est l'écroulement, on pourrait dire, des repères de l'alliance même entre Dieu et son peuple. Et au lieu de développer ici une théologie nationaliste qui présenterait un Dieu agressif, finalement, contre les ennemis de ce peuple, on vient, avec un élargissement comme celui que l'auteur nous propose là, on vient de passer d'un Dieu national à un Dieu universel qui s'engage envers toute l'humanité, à ce point même que dans la liste de Genèse 10, les ennemis actuels des auteurs sont là, c'est-à-dire que Babel est là, vous voyez, dans la liste. Alors, c'est un saut théologique. C'est la maturation de la pensée théologique d'un groupe. Et c'est cela qu'on reconnaît, nous, comme étant l'inspiration, finalement. Cette expérience spirituelle particulière qui conduit des gens à ce qu'on peut qualifier, sans abus de langage, d'une audace théologique dont nous avons de la difficulté à prendre la mesure, nous, aujourd'hui. Donc, cette universalité, là, elle est vraiment une nouveauté. Faut toujours se rappeler que c'est pas parce que les récits sont au début de la Bible qu'ils sont les premiers à avoir été écrits. C'est un peu déroutant, là. Un autre trait de l'universalité de cette alliance, c'est qu'elle ne concerne pas que les humains, mais tout l'univers en tant que porteur de vie. Dieu dit qu'il fait son alliance avec tous les êtres vivants qui sont avec vous.
Ah, vous avez raison. La traduction écuménique de la Bible qu'on a lue en début d'émission, c'est « toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous ».
Oui, avec vous. Donc, il y a un compagnonnage, je dirais, dans le choix du vocabulaire.
Ouais. Ouais. Mm-hmm.
Alors, donc, on énumère les oiseaux, les bestiaux, les bêtes sauvages. Donc, c'est, je le rappelle, c'est une manière de relier ce récit au premier poème de la création. Hein. Dieu relance, finalement, son projet d'un univers qui est grouillant de vie. Et en même temps, il le place sous la nouveauté du thème de l'Alliance, qui est un thème avec un accent plus relationnel, où Dieu est davantage impliqué, je dirais, que dans le poème de la création en six jours.
Et ceci nous amène au signe, justement, qui est utilisé.
Et qui est très beau en plan de l'esthétique.
Cet arc-en-ciel, enfin, on a tous vu plus d'une fois dans notre vie, c'est tellement beau, cet arc qui relie le ciel. Alors, on imagine les auteurs de cette parole-là qui se sont inspirés, finalement, de ce qu'ils ont vu et qui ne pouvaient sûrement pas scientifiquement expliquer à l'époque.
Mm-hmm, c'est vrai. Mm-hmm. Et donc, comme vous dites, cet arc qui relie le ciel et la terre, c'est-à-dire, finalement, tout ce qu'on connaît du cosmos à l'époque. Hein. Voir cela, ça stimule tout de suite la réflexion des anciens comme des modernes,
En tout cas, moi, pour ma part, je peux vous dire que les rares fois où je vois un arc-en-ciel, je suis complètement ébloui par cette...
Il y a une magie là-dedans.
Avec ce pont de plusieurs couleurs qui relie le ciel et la terre. Faut pas être poète effrayant là, pour se laisser émouvoir.
En effet. Ce qu'on signale moins souvent dans les commentaires, je ferais remarquer que l'arc-en-ciel relie aussi les temps nuageux aux temps ensoleillés.
Non, c'est intéressant.
Il n'y a pas d'arc-en-ciel lorsqu'il ne fait que pleuvoir, c'est sûr, mais il n'y en a pas non plus quand il fait beau.
Ça, c'est intéressant.
Et j'aime bien cet aspect d'ambivalence dans laquelle on positionne l'arc-en-ciel, entre ciel et terre et entre ténèbres et soleil. Vous voyez, c'est une symbolique très parlante, autant aujourd'hui que pour les anciens. Et Dieu dit... « Je regarderai l'arc dans la nuée pour me souvenir de mon alliance. » Et c'est assez étrange, cette formule, comme si l'arc-en-ciel devenait un post-it, si je peux me permettre l'expression, c'est-à-dire un aide-mémoire pour Dieu. Hein. Et ici, on rejoint la deuxième caractéristique de l'alliance, elle est unilatérale. L'arc-en-ciel n'est pas placé là pour qu'on le trouve beau dans le récit, il est placé là comme aide-mémoire pour Dieu. Parce que Dieu s'engage lui-même, mais c'est seulement lui qui l'engage dans cette alliance, contrairement à ce qu'on voit habituellement dans les alliances.
Vous avez raison. Dans les contrats, il y a toujours une... ça se fait à deux.
Hein? C'est ça.
Je vais protéger ton territoire et en retour, tu vas me payer tant ou tu vas me rendre tel et tel service.
Ouais.
Tandis qu'ici, c'est vraiment unilatéral.
Ouais.
C'est Dieu qui prend l'initiative et puis...
Et qui fait une promesse, mais qui n'attend pas de promesse en retour. Il annonce bien le contenu de cette alliance, c'est « il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre ». C'est intéressant de voir Dieu prendre ses distances, je dirais, par rapport à une décision qu'il a prise à peine trois chapitres avant. Il promet de ne jamais refaire ce choix-là qu'il avait fait. Donc, il se positionne clairement dans cette alliance comme un Dieu qui veut la vie, qui fait alliance avec la vie. Et cette promesse, il l'a fait sans poser aucune condition à Noé. C'est « je ne ferai plus ce que j'ai fait ». C'est assez original, je trouve, de présenter ainsi l'arc-en-ciel comme étant là pour Dieu, un peu comme si Dieu devait se rappeler qu'il a appris peut-être quelque chose de cette expérience. Peut-être il a découvert que c'est un genre de solution, le déluge, qui ne règle rien ou avec laquelle il ne se sent pas très fidèle à lui-même.
Vous avez raison.
Oui.
C'est un aide-mémoire pour Dieu. Lorsque je le verrai, c'est Dieu qui parle. Hein. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel paraîtra dans les nuages, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et avec tous les êtres vivants.